Merci, bonjour à tous. Donc, merci aux organisateurs pour leur invitation et merci de m'avoir donné l'opportunité aujourd'hui de vous présenter l'importance de la bilirubinémie dans la prise en charge de l'ictère néonatal au quotidien. C'est un sujet qui me préoccupe au quotidien déjà depuis de nombreuses années. L'ictère néonatal est une situation qui est le quotidien en maternité des pédiatres, puisqu'il va toucher près de 2/3 des nouveau-nés. Mais c'est un ictère qui est bénin, qui va régresser spontanément sous aucun traitement. Le risque, cet ictère bénin est dû à l'hyperbilirubinémie non conjuguée, dû à un défaut d'adaptation postnatale du métabolisme de la bilirubine. Le problème, c'est le risque d'évolution vers une hyperbilirubinémie sévère, due à une situation d'hyperhémolyse, avec une évolution de l'ictère en ictère appelé nucléaire. C'est une encéphalopathie aiguë puis chronique qui est due à la toxicité de la bilirubine non conjuguée qui va passer la barrière hémato-encéphalique et se fixer au niveau des noyaux gris centraux du nouveau-né. Donc la bilirubinémie va être visiblement décelable sur des peaux claires si la bilirubine totale est supérieure à 80 micromoles par litre. Pour apprécier l'intensité de l'ictère par une bilirubinémie quantifiable, ce sera seulement de façon instrumentale, soit de manière non invasive. C'est ce qu'on appelle les tests d'orientation rapide de diagnostic, les TROD ou BTC, soit de manière invasive, par un dosage sanguin de bilirubine totale, sanguine, et là c'est le gold standard. La prévention des hyperbilirubinémies sévères est donc l'objectif de toute la prise en charge des ictères du nouveau-né, depuis le dépistage organisé de l'ictère en maternité jusqu'à l'organisation personnalisée de la sortie de la maternité et du suivi postnatal, en passant par le traitement de l'hyperbilirubinémie. La SFL, la Société française de néonatologie, il y a quelques années, a émis des recommandations sur l'ictère. Dans ces recommandations, on retrouve les valeurs normales de bilirubinémie qui servent de référence. Vous avez à droite un homogramme justement qui vous présente ces valeurs en fonction de l'âge postnatal des nouveau-nés. Dans ces recommandations, on retrouve aussi les courbes d'indication thérapeutique, photothérapie et exsanguinotransfusion, qui, elles aussi, sont basées sur le dosage sanguin de la bilirubine totale. Enfin, dans ces recommandations, il y a les clés pour l'articulation dans la pratique entre la valeur du BTC, donc la quantification non invasive par le TROD, et la valeur de la bilirubine totale sanguine. C'est-à-dire que dans les recommandations, il est indiqué à quel moment on doit pratiquer un dosage sanguin, à savoir quand le BTC est supérieur au 75e percentile là du nomogramme qui est ici en bleu, soit parce que le BTC est supérieur à 250, soit si le BTC clignote, soit il est supérieur au 85e percentile, soit s'il y a une discordance entre l'appréciation visuelle de l'ictère et le BTC, soit lorsque le bébé est sous photothérapie. Un bébé qui est photothérapie ne peut plus être surveillé par un BTC. Il faut lui faire des dosages sanguins et même 24 heures après l'arrêt de la photothérapie, le BTC ne permet toujours pas de donner une mesure fiable. Alors, les indications thérapeutiques de l'ictère sont soit la photothérapie, soit l'exsanguinotransfusion. On a de la photothérapie conventionnelle ou intensive. Elles sont, comme je vous ai dit, basées sur la valeur de bilirubine totale sanguine qui est interprétée selon l'âge gestationnel, donc l'âge postnatal en heure et aussi les conditions de vulnérabilité à la toxicité de la bilirubine. Si bien qu'à droite, vous avez les courbes, vous avez à chaque fois trois courbes. Donc les trois groupes en pointillé, c'est les courbes pour l'exsanguinotransfusion, les valeurs du bilirubine totale, et les courbes en plein, c'est les courbes pour la mise sous photothérapie. Donc pourquoi trois courbes ? Parce que pour les âges gestationnels plus précoce et quand vous avez des conditions de vulnérabilité importantes telles qu'un déficit en G6PD, vous allez mettre sous photothérapie plutôt que pour un bébé qui n'a pas de risque ou qui est né après 38 semaines d'aménorrhée. Donc en réponse à ces pratiques et donc aux recommandations cliniques qu'ont émises la SFN, le laboratoire, lui, doit répondre de manière fiable et rapide sur un dosage de bilirubine et il doit faire face depuis déjà plusieurs années à un problème analytique majeur qui est l'échec de la standardisation de la mesure de la bilirubine totale puisque depuis de nombreuses années, il n'y avait plus de matériel de référence, le SRM 916A, pour accorder les calibrants des fournisseurs, ce qui s'est accompagné de différences intertechniques importantes entre les laboratoires, aggravées en plus dans les zones de concentration pour lesquelles on doit mettre sous traitement. Alors, en janvier 2021, un nouvel SRM a été mis en vente, le SRM 916B, donc avec une amélioration donc, du coup, espérée pour cette standardisation. Là, maintenant, je vais vous présenter plus le contexte et la situation locale, puisque je travaille au CNRHP, au sein du groupement hospitalier Sorbonne Université, donc j'appartiens au DMU Biogem, avec trois sites, le Pitié-Salpêtrière, Saint-Antoine, Trousseau et Thenon, avec trois maternités, dont une de type 3 à Trousseau et deux de type 2, une à Thenon et à Pitié-Salpêtrière. Donc dans chaque maternité, vous avez donc des bilirubinomètres transcutanés de différents modèles. Dans 4 des sites, vous avez 3 laboratoires d'urgence donc liés donc à où vous allez avoir un suivi en urgence des nouveau-nés, avec là possiblement des dispositifs de mesure de bilirubinémie néonatale en biologie décolisée dans les maternités. Et enfin, vous avez un laboratoire de référence dans lequel je travaille, le CNRHP, qui est sur le site Saint-Antoine. Et notre but, nous, c'est sur le suivi spécialisé des formes sévères, puisque nous dosons des formes particulières de bilirubine, la bilirubine non bilialbumine, la bilirubine intra-arthrocytaire, qui sont des formes libres de bilirubine, qui sont prédictifs des encéphalopathies hyperbilirubinémiques. Alors, devant ce contexte de groupement hospitalier, nous avons des nouveau-nés qui peuvent être transférés d'un site à l'autre, par exemple qui doivent partir sur la maternité de type 3. Des échantillons de nouveau-nés surtout qui peuvent être transmis au CNRHP sur le site Saint-Antoine pour lequel nous allons avoir une expertise soit en immunohémato, soit sur des dosages spécifiques de bilirubine. Le problème actuel, c'est qu'il n'y a pas de vérification de la concordance des résultats entre les différentes techniques employées dans notre groupement hospitalier, ni de vérification du raccordement de ces résultats au laboratoire de référence et au SI. D'où une étude que nous avons décidé de mener au sein de notre groupement hospitalier pour évaluer si, depuis la commercialisation du SRM 916B, il y avait eu une amélioration au niveau de la standardisation. Surtout qu'on avait fait une étude préalable il y a 5 ans avec la SFBC, le Collège national des biologistes hospitaliers, où on avait montré justement qu'il y avait des différences importantes entre les techniques, avec parfois des impacts sur l'interprétation clinique des résultats. Donc le but aussi de cette étude était de progresser au sein de notre DMU sur les comparaisons entre les résultats obtenus à partir de sérum de nouveau-nés dosés à laboratoire d'un site pédiatrique avec ceux d'un laboratoire de référence, puisque nous, on était amenés à recevoir ces prélèvements-là pour notre expertise sur les formes sévères. On voulait également progresser sur la comparabilité des résultats entre le jour et la nuit, notamment sur Saint-Antoine, et entre ceux obtenus sur un automate de biologie localisée et ceux rendus par le laboratoire central du site. De cette manière, on voulait harmoniser nos pratiques entre les 4 sites de notre DMU et améliorer, le but final était d'améliorer la communication avec les unités de soins puisqu'ils utilisent des TROD, des tests d'orientation diagnostique. Alors, nous avons mené cette étude en mars 2020. 2024, excusez-moi, sur les 4 sites du DMU, avec donc 7 automates de laboratoire ou la colla délocalisée, ce qui représente 5 techniques différentes. Donc sur le site Saint-Antoine, donc vous avez le CNRHP où nous utilisons donc un automate thermo-indico avec une réaction diazo, mais nous étalonnons avec un étalon raccordé, un étalon préparé qui est raccordé par le LNE. Et bon, dans notre laboratoire, on fait le suivi spécialisé de l'ICTER. Nous avons un laboratoire à Saint-Antoine d'urgence avec un atelica sur lequel sont pris en charge l'activité de nuit du CNRHP. Donc potentiellement, il y a des bébés qui sont suivis au CNRHP sur l'indico dans la journée et sur l'atelica la nuit. À l'hôpital Armand-Trousseau, il y a un laboratoire donc central et d'urgence où les bilirubines sont dosées sur un atelica. Donc ça, c'est une méthode Vanadate. Ils ont un GEM-5000 qui est en réa néonate, sur lequel il y a de la bilirubine en délocalisé. Et ils ont plusieurs BTC, notamment, mais également donc, dans les différents services de la maternité pour le suivi non-invasif. À Thonon, vous avez un atelica. Donc on a testé sur l'atelica de Thonon qui est présente dans le laboratoire central et d'urgence. Et enfin, la pitée salpêtrière, donc nous avons réalisé donc cette étude sur l'automate de Cobas-Roche qui est au laboratoire central et d'urgence et endolocalisé sur l'ABL90. Donc les patients qui ont été testés sont des poules que nous avons préparées au CNRHP qui provenaient de nouveau-nés ou de patients adultes, donc il y avait 30 poules à passer, avec ça permettait de couvrir en fait l'ensemble des concentrations physiologiques qui vont de 25 à 300 micromoles par litre. Nous avons donc les valeurs attendues ont été mesurées au CNRHP en utilisant l'étalon raccordé. Et pour les patients, nous avons donc pu tester 16 nouveau-nés de la maternité de Trousseau, pour lequel il y a eu un BTC de réalisé, un bilirubinomètre transcutané en sternal et en frontal, comparé avec la mesure de la bilirubine sur la telica, donc de Trousseau. On a passé des échantillons de contrôle qui étaient commutables, et avec un échantillon bas et un échantillon haut. Bon, voilà le protocole expérimental qui a été suivi. Donc, il y avait 41 échantillons à passer. Les échantillons de contrôle, les étalons ont été passés plusieurs fois dans la série, ce qui nous a permis de faire le calcul des précisions. Et donc là, je vais vous présenter maintenant les résultats de cette étude. Donc, au niveau justement de la précision intralaboratoire que nous avons déterminée au niveau des échantillons de contrôle, nous avons pris comme limite acceptable donc, les bornes de la SFBC avec la valeur de 5% pour les valeurs basses et de 3% pour les valeurs hautes. Et vous voyez qu'on a des automates qui sont très précis, aussi bien en délocalisé que sur les laboratoires centraux, puisque comme attendu, donc on a bien donc des précisions qui sont conformes aux besoins cliniques. On a également donc calculé cette fois-ci la précision interlaboratoire en poulant toutes les techniques. Et là, cette fois-ci, on a pris comme limite acceptable la limite qui a été fixée clinique comme de 10% sur les valeurs hautes. Et là, on voit que et pour toutes les valeurs hautes de contrôle, aussi bien au niveau du C2 et des étalons, on a bien des CV qui sont inférieurs à 10%, même autour de 5%, avec même une amélioration par rapport à l'étude précédente qu'on avait réalisée en 2020. Donc là, bonne précision sur toutes les techniques confondues. Alors, pour rappeler les objectifs, on voulait donc vraiment faire une étude d'exactitude au niveau du site Saint-Antoine, entre l'atelica sur lequel on rend les bilirubines la nuit et versus donc la valeur attendue, et on comparait les résultats donc obtenus du jour avec ceux obtenus de la nuit. Donc sur le site Armand-Trousseau, la même chose, on voulait faire l'exactitude par rapport à la valeur attendue et une comparaison des résultats obtenus au laboratoire par rapport à ceux de biologie délocalisée sur le GM5000, et enfin comparer les TROD avec le laboratoire sur la Telica. Sur le site Tenon, on a voulu calculer l'exactitude des résultats par rapport aux valeurs attendues, et sur Pitié-Salpêtrière, également l'exactitude des résultats par rapport aux valeurs attendues et les comparaisons entre laboratoire central et biologie délocalisée. Alors sur le site Intantoine, l'exactitude par rapport aux valeurs attendues était donc très excellente. Le biais, la comparaison donc est tout à fait acceptable, avec un biais qui a même diminué par rapport aux valeurs, par rapport à la technique des valeurs attendues, un biais qui a diminué par rapport à l'étude de 2020, puisqu'on avait un biais important avec les Atelica. Donc là, on a une bonne comparabilité des résultats entre les deux périodes. Pour le site Armand-Trousseau, comme on a des allées Telica également sur Trousseau, on a observé la même chose, c'est-à-dire une très bonne exactitude des résultats entre le LBU Trousseau à Telica et les valeurs attendues. Donc la comparaison entre le GEM5000 et l'indico donc versus la valeur attendue, là aussi donc pas de biais dans les résultats minimes pour les valeurs hautes, et pour en fait la comparaison entre le GEM5000 et la Telica, une très bonne comparaison des résultats, que ça soit fait en délocalisé ou en centrale. Pour ce qui concerne sur le site Armand-Trousseau, les tests d'orientation diagnostique, donc il existe différents types de BTC. L'étude a été réalisée au sein du CNRHP clinique par les pédiatres du CNRHP, et ils ont fait des mesures aussi bien en sternale que frontale. Donc on a une dispersion des résultats sur les valeurs basses, par contre une bonne comparabilité des résultats sur les valeurs hautes, avec cependant l'existence d'un variant, ce qui montre bien la nécessité que ça soit toujours confirmé par une mesure invasive de la bilirubine. Pour le site Tenon, où ils utilisent des Atelica, là encore on a une très bonne comparaison des résultats entre donc l'exactitude du coup calculée par rapport à la valeur attendue est très bonne, avec un biais minime. Donc une bonne comparabilité entre les deux sites. Pour la Pitié-Salpêtrière, où ils utilisent donc le Cobas Roche, nous avons retrouvé un biais au moment où on a donc calculé l'exactitude des résultats, et ce biais est de l'ordre de 15%, un biais négatif qui avait déjà été retrouvé dans l'étude de 2020, puisqu'on avait un biais qui était de l'ordre de moins 12%, avec potentiellement une incidence clinique que l'on avait montré, notamment sur un cas clinique où il y avait eu un retard à la mise sous photothérapie il y a quelques années sur un bébé où il y avait eu différents dosages de réalisés dans différents laboratoires. L'exactitude des résultats obtenus entre le laboratoire là aussi entre le BMD et les valeurs attendues a été également rejeté. Donc, il s'agit d'un Abel 90 radiométer. Donc on a retrouvé un biais là aussi de l'ordre de 15%, donc comparable à celui de l'automate Roche. Donc quand on compare du coup les bilirubines entre le délocalisé sur le site Pitié-Salpêtrière, sur le l'ABL et sur le laboratoire central sur le COBAS, ben, par contre c'est accepté. Donc on a une bonne comparabilité, ce qui est important, hein, que ça soit fait en délocalisé ou en centrale sur le site de la Pitié-Salpêtrière. Donc ce biais par défaut, donc du coup, il est bien retrouvé sur les deux automates, ce qui est normal puisque l'automate, le label 90 est calibré avec le calibrant Roche au moment de la validation de méthode. Alors, du coup, comment est-ce qu'on peut tenter de corriger? Est-ce qu'il est envisageable de corriger les résultats du COBAS de manière à être comparable, à avoir une meilleure comparabilité avec les valeurs attendues? Donc, si on applique la valeur de la pente de la droite de Deming qui était à 1,14, ben vous voyez qu'on arrive à corriger les valeurs et à se retrouver donc avec des valeurs tout à fait acceptables par rapport aux valeurs attendues. En revanche, cette correction ne peut pas être faite sur la BL 90. Donc ça pose problème, puisque vous n'êtes plus comparable entre la biologie délocalisée et le laboratoire central. Donc c'est pour ça que ce n'est pas vraiment une solution que de vouloir corriger, parce qu'on va induire un autre problème, on sera plus comparable avec la biologie délocalisée. Ce qui est le mieux, et c'est ce qui est fait, hein, c'est d'aller parler avec, de s'orienter avec le dialogue, dans le dialogue clinico-biologique, et d'aller parler avec les pédiatres, sur cette discordance entre les deux dosages, entre la bilirubine la valeur donc réalisée aussi bien au CNRHP qu'à Trousseau, à Tenon, que celle de la Pitié-Salpêtrière. En fait, il faut expliquer qu'il y a un biais, les cliniciens sont au courant, et ça leur permet aussi de corriger leur attitude et d'avoir un recul par rapport aux résultats et de ne pas être étonné face à ces discordances. Alors, en conclusion, donc cette exactitude des résultats de bilirubine a été évaluée par rapport aux valeurs de référence sur des échantillons de contrôle, mais également sur des poules de patients congelés provenant d'adultes ou de nouveau-nés. Le comportement, on a vu que les échantillons de contrôle étaient comparable aux résultats qu'on a obtenus avec les résultats des patients, ce qui prouve bien que les contrôles qu'on a utilisés étaient des contrôles commutables. Et les biais retrouvés pour certains couples automates-méthodes, vous avez vu qu'ils étaient le plus souvent acceptables, notamment pour la Telica, où en 2020, on avait eu des biais beaucoup plus importants. Donc la question est-ce que le calibrant a été réajusté avec le SRM 916B. Alors, il n'y a pas de communication des fournisseurs. S'il y a des raccordements, s'ils changent leur raccordement, certains l'ont fait, mais on peut se poser la question si d'autres l'ont peut-être fait, mais n'ont pas averti les utilisateurs. Donc, c'est une question à poser. Dans les deux cas où on a eu un biais significatif, avec une erreur proportionnelle par défaut d'environ 15% pour le COBAS et pour la BL 90. Là encore, c'est important de pouvoir dialoguer avec les cliniciens. Et donc par rapport à un reciblage, ce n'est pas vraiment souhaitable, puisqu'en fait, on serait plus comparable avec la biologie délocalisée. Donc pour résumer, vous avez les résultats de l'exactitude qui est bonne entre le CNRHP et donc le laboratoire des urgences de Saint-Antoine sur le site Trousseau, et également donc est bonne avec Tenon, et une bonne exactitude également avec les en délocalisé et les BTC. Par contre, le biais observé, donc c'est avec le site de la Pitié-Salpêtrière. Donc, en conclusion, le laboratoire a un rôle vraiment critique pour donner une valeur exacte et rapide de bilirubine totale, surtout dans les gammes de concentration supérieures à 150 micromol par tri. Cette étude nous a permis de progresser vers une harmonisation multisite au sein de notre DMU, On a pu ainsi confirmer les bons résultats de précision de l'ensemble des automates, hein, surtout nos sites et même en délocalisé, de vérifier sur les 3 sites, hein, sur 4, qu'on avait bien une bonne exactitude, une comparabilité jour et nuit, que la comparabilité entre les 3 sites était bonne, donc on pouvait faire des backups croisés, que la comparabilité entre le laboratoire et le site EBMD était bonne et qu'avec les BTC, il n'y avait pas de problème avec ce BTC-là. Ça nous a permis aussi de proposer des mesures simples, hein, pour corriger des résultats et surtout de comprendre, d'aller voir les cliniciens, de déjà aller voir quel type de courbe de photothérapie ils utilisent, quelles recommandations ils suivent. Donc ce dialogue est important pour connaître, pour pouvoir interpréter ensuite les résultats. Donc cette étude locale nous a permis donc de mettre en pratique des recommandations que nous avions publiées dans les ABC sur l'intérêt de la bilirubinémie et justement sur toute l'articulation entre BTC, biologie délocalisée, laboratoire central, laboratoire des urgences. Donc ça passe par une bonne connaissance de toutes les techniques, hein, et des limites analytiques par le biologiste, hein, de ces techniques. Et surtout la mise en place, hein, d'un dialogue clinico-biologique pour expliquer les biais qu'on peut observer entre les différents sites. Alors pour finir, je voulais remercier donc tous les participants de mon groupement hospitalier pour la réalisation de cette étude. Michel Vaugourdol et sur le laboratoire Est parisien, donc Amal Chimigui, qui est la technicienne qui a réalisé tous les pools de patients et qui a techniqué l'ensemble des échantillons sur le CNRHP. Mes collègues du site Saint-Antoine de biochimie, Elisabeth Lanier et Erwan Guillot, sur Trousseau, Marie-Clotilde Aguet, Sophie Bayol, hein, qui sont les biologistes qui ont réalisé l'étude, et sur Tenon, Laure Calas. Donc, du côté rive gauche, l'étude a été réalisée par Anna Alcouré et Dominique Bonnefond-Rousselot. Et enfin, j'ai participé, puis j'ai dialogué beaucoup avec mes deux collègues pédiatres, Marie-Gabrielle Guillemin et Jessica Wirt. Jessica Wirt travaille sur la pitée salpêtrière et également au CNRHP, donc ce qui lui permet d'être bien au fait des différentes problématiques. Voilà, je vous remercie à tous pour votre attention. Thank you.